Midi passé de 10 minutes sur Canal Sud 92.2 en compagnie aujourd'hui de Patrick Lérissou, vice-président et coordinateur de l'association Férus. L'association Férus est l'association nationale pour la défense et la sauvegarde de grands prédateurs, à savoir en l'occurrence le loup et l'ours, mais aussi qui milite pour la réintroduction du lynx en France. Aujourd'hui, donc, on va plus spécifiquement parler de l'ours, puisque c'est lui qui est présent dans les Pyrénées, à côté d'ici, à côté de Toulouse, et notamment en Ariège. Et on discutera, voilà, pendant une heure, des enjeux liés à sa protection dans son habitat, mais aussi aux conflits liés à sa réintroduction, puisque depuis 1996, il y a plusieurs ours, notamment slovènes, qui ont été introduits dans les Pyrénées. Puis on verra aussi que votre association, elle visibilise aussi les violences qui sont perpétrés à l'égard de ces ours, et on passera aussi du temps pour parler de ça, mais peut-être pour qu'on comprenne un petit peu à qui on a affaire ou comprendre votre démarche, est-ce que vous pourriez peut-être vous présenter et nous raconter un petit peu comment l'ours est arrivé dans votre vie?
Oui, donc Patrick Lérissou, je suis actuellement vice-président coordinateur ours de l'association Férus. De tout jeune, j'ai toujours été intéressé par l'histoire de la vie sur Terre, avec ses corollaires, paléontologie, et puis commencer à comprendre comment fonctionne notre monde, géologie, astronomie, astrophysique. Et en parallèle, j'étais très attiré par la montagne et l'alpinisme, donc forcément sensibilisé aux espèces qu'on peut croiser. Alors j'ai suivi tout ça d'assez loin, je dirais comme tout le monde, par la grande presse. Et en 2010, lors d'un voyage dans les Asturies, dans le nord-ouest de l'Espagne, qui permettait de connaître un nouveau massif, et ce massif peuplé par des ours, des loups, toutes espèces qui avaient été éradiquées en France, ou presque. En revenant de ce voyage, j'étais extrêmement... Côté ours, j'avais envie de creuser la question et je me disais, mais où est-ce qu'on en est en France, etc. Donc, j'ai fouillé un peu, je suis tombé sur le site Férus et puis d'autres sites sur lesquels, petit à petit, je suis intervenu en tant qu'internaute. Et à force d'écrire le site de la Buvette des Alpages à l'époque, la personne qui tenait le site m'a proposé d'écrire des articles, ce que j'ai commencé à faire, et j'ai commencé à faire des petites études. Et jusqu'à ce que un administrateur de Férus, qui intervenait aussi sur ce site, m'a proposé de devenir administrateur, ce que j'ai accepté en 2017, donc c'est relativement récent. Et j'ai pas mal travaillé ensuite avec la coordinatrice ours de l'époque, Sabine Matraire, qui est restée coordinatrice ours à Férus pendant 17 ans. Et jusqu'à ce qu'elle ait en 2020 l'opportunité d'avoir la présidence depuis l'Oursadette, une association avec laquelle on travaille. Et donc, du coup, j'ai pris la place. Et voilà ce qui m'amène ici.
Alors justement, j'imagine que dans ce parcours-là, vous avez de quoi nous informer un petit peu sur l'ours et sur sa présence dans les Pyrénées. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la vie de l'ours dans les Pyrénées, globalement, est-ce qu'on a des traces de l'ours dans les Pyrénées depuis méga longtemps? Est-ce que c'est un habitat qui fait qu'il y a eu des ours pendant longtemps? Et du coup, après, une fois que vous nous aurez parlé de ça, moi, ce qui m'intéresse, ce serait de savoir qu'est-ce qui a mis en danger l'ours dans ces montagnes et qui a causé la réduction du nombre d'ours.
Oui, alors l'ours est présent dans les Pyrénées depuis au moins 250 000 ans, avec diverses espèces qui se sont succédées. Alors il faut savoir que l'ours n'est pas forcément une espèce de montagne, hein. C'est aussi une espèce de plaine. Hein. Dans les grandes plaines sibériennes, russes ou nord-scandinaves, on a des ours. L'ours a occupé, on va dire, le territoire français, l'ensemble du territoire français pendant pas mal de temps, pendant que l'homme était chasseur-cueilleur. Mais à partir du néolithique, au moment où l'homme est devenu agriculteur, éleveur, l'homme a commencé à défricher les forêts, à occuper le terrain pour pouvoir subsister, faire des cultures, ce qui était des milieux pas très favorables à l'ours. Et il a été petit à petit repoussé vers des zones où la forêt était plus présente. La forêt est des zones plus tranquilles, parce qu'il n'est pas spécifiquement non plus inféodé à la forêt. Et petit à petit, il a reculé. En parallèle, comme tous les grands prédateurs, il y avait une certaine concurrence vis-à-vis de la faune, notamment de la faune domestique, avec des prédations. Donc il y avait des éliminations d'individus qui pouvaient poser problème. Mais ça s'est accentué avec le temps, avec l'augmentation de la population humaine, à la place de plus en plus grande qu'il a pris. Donc l'ours a été repoussé petit à petit vers les massifs, Alpes, Pyrénées, Vosges. À partir du 19e siècle, il y a eu, l'État a donné des primes pour l'élimination des animaux qui étaient classés nuisibles, dont faisaient partie l'ours, le loup, les grands prédateurs. Tout ça s'est accentué avec également la chasse qui a été accordée à tout le monde, enfin ou presque, à partir de la Révolution. Et donc, des véritables politiques d'éradication ont été mises en place. Il y a une chute vertigineuse lors du 19e et début 20e siècle des populations d'ours. Le dernier ours dans les Alpes détecté, c'était en 1937. Et dans les Pyrénées, il en restait au début du 20e siècle une centaine ou 150. Mais bon, on pense que ces chiffres étaient quand même surestimés. Dans les années 50, il en restait apparemment 70, jusqu'à ce que la protection soit mise en place. Les politiques d'éradication ont cessé dans les années 50. Il a été définitivement protégé en 1962, mais la population résiduelle, qui était déjà petite, a été victime de braconnage, d'accidents de chasse, elle a fondu petit à petit. Dans les années 80, là où les décomptes ont commencé à être un peu plus précis, on s'est aperçu qu'il en restait une quinzaine. Dans deux noyaux, un noyau dans les Pyrénées centrales, très faible, le plus gros noyau en Béarn. Le noyau des Pyrénées centrales, le dernier spécimen a été repéré fin des années 80, début des années 90. Et vers 95, il restait 5 ours dans le Béarn, 5 ours autochtones. Et c'est à partir de là que les premières réintroductions ont été faites pour renforcer la population.
On aura tout le temps, ouais, d'aborder ce point-là. Mais juste pour comprendre, là, vous parliez de braconnage. C'est comme ça qu'on dit. Oui.
Oui.
Qu'est-ce qui motive ces braconniers à chasser l'ours?
Alors, officiellement, le terme, c'est destruction d'espèces protégées. Parce que le braconnage, en fait, c'est des espèces chassables, mais qui sont chassées hors période de chasse.
D'accord.
Qu'est-ce qui motive? Ça peut être, de la part d'éleveurs, le fait d'éliminer un individu qui, pour eux, leur cause des problèmes. Pour les chasseurs, ça peut être éliminer des ours, des espèces qui sont concurrentes, ou alors juste pour avoir un trophée, en fait.
Ah ouais, ok. Bon, on va faire une petite pause musicale qui va nous rappeler un petit peu toutes les représentations, enfin une partie des représentations sociales liées à l'ours, et on se retrouve juste après.
Ah oui.
Dans notre village, autrefois, un ours énorme dévastait le bois. Il faisait peur aux bûcherons et du berger, mangeait tous les moutons. Le maire et monsieur le curé dirent en colère, cela ne peut durer.
Cet ours nous enlève tout repos.
Avant 8 jours, il faut avoir sa peau.
On partit donc de bon matin dans la forêt, comptant des bons le pain.
De la nuit dans un sentier. Ah!
On voit son œil qui lui.
Et pan, voilà monsieur le curé qui met en chant.
Et s'en est bien tiré.
Mais l'ours qui n'était que blessé, tout étourdi, roula dans le fossé.
On l'emporta à la maison et dans la cave, on le mit en prison.
Réjouissance au village. Continue.
Depuis ce jour, apprivoisé, l'ours pas méchant, joyeux et bien rasé,
se charge d'un tas de travaux.
À la fontaine, il va quérir de l'eau.
Il sait conduire le tracteur.
Au nouvel an, il aide le facteur.
Pour la distribution des prix.
Oui, mes amis, c'est son discours qui fut le mieux compris.
Moralité.
Depuis qu'il siège au tribunal, on s'aperçoit que ça ne va pas plus mal.
Tout marche mieux à la mairie.
Ah, s'ils avaient le même ours à Paris. Plom, plom.
De retour dans le magazine de Canal Sud, il est midi 20, on parle de l'ours et on vient d'écouter la chanson des Compagnons sur la chanson de l'ours justement qui montre voilà, l'ambivalence des représentations qu'on peut avoir sur l'ours, à la fois un danger et à la fois une figure socialement valorisée. J'ai pas tout compris là, pourquoi il se retrouve au tribunal à la fin, enfin, c'est limite le chef quoi, c'est devenu le chef l'ours.
À vrai dire, j'ai pas tout écouté.
Très bien, écoutez, vous, voilà, vous, libre interprétation. On était en train un petit peu de resituer un petit peu la vie de l'ours là dans la région et on a commencé à évoquer la politique donc déjà le fait qu'il y a une politique répressive de valorisation de la chasse des prédateurs et notamment de l'ours depuis le 19e qui s'est transformée en politique de protection notamment face à la baisse importante du nombre d'individus d'ours et ce qui a suscité une forme d'inquiétude, alors même que ce sont quand même les politiques des humains et des États qui ont quand même mené à sa perte. Mais aujourd'hui, il y a une politique de réintroduction de l'ours, notamment depuis le milieu des années 90. Est-ce que vous pouvez en dire quelques mots, parler un petit peu de cette chronologie, mais aussi de c'est quoi un petit peu le projet politique qui sous-tend ces réintroductions?
Alors, on parlait d'ambivalence concernant le rapport de l'homme et en particulier peut-être des agriculteurs avec l'ours. C'est vrai puisque, en fait, dans les populations pyrénéennes, historiquement, l'ours a toujours été à la fois respecté et à la fois vilipendé, puisque bon, il pouvait causer quelques dégâts, mais en même temps, c'était une figure tutélaire de la montagne. Ce qui est frappant, c'est que finalement le loup a été complètement éradiqué, alors que c'était pas le cas de l'ours, puisqu'il en restait jusque dans les années. Il y avait une population résiduelle dans les années 90, alors que la dynamique démographique de l'ours est beaucoup moins bonne que celle du loup. Il est beaucoup plus fragile démographiquement, ce qui prouve que quelque part il n'y a jamais eu de vrai volonté de la population pyrénéenne d'éradiquer l'espèce, contrairement au loup. Petit à petit, finalement, il a disparu, puisque à l'époque, on n'avait pas de notion mondiale de biodiversité, d'effectifs, etc. On n'avait pas de perspective. Le monde paraissait immense, mais depuis, c'est extrêmement réduit dans nos représentations. Et puis la population n'était pas suivie non plus.
Mais en fait, tout à l'heure, on parlait un petit peu des causes de la perte des ours. En fait, l'ours, il est chassé dans des territoires toujours plus restreints avec l'urbanisation depuis le néolithique. Mais quand même, là, il y a eu une baisse ces dernières années. Du coup, en fait, concrètement, le problème, c'est que les gens le tuent avec des armes à feu, ou bien est-ce que c'est... ou est-ce qu'il n'y a vraiment plus du tout assez d'espace, ou bien est-ce que c'est la pollution, une combinaison de facteurs?
Non, c'est principalement l'action de l'homme, l'action volontariste de l'homme.
Des chasseurs, en fait.
Chasseurs et la société agricole, puisque des espèces classées nuisibles à l'époque, les gens étaient beaucoup plus à l'époque aussi dans de la subsistance. Donc les dégâts que pouvaient causer quelques espèces étaient menacés leur survie. Donc les réactions étaient beaucoup plus grandes. Et je dirais depuis le néolithique, c'est une tendance naturelle de l'homme d'aller éliminer ce qui gêne, sans prendre conscience des conséquences à long terme, puisque le monde paraissait immense. Mais maintenant, on prend conscience effectivement d'un effondrement de la biodiversité dû à nos actions, parce que nous sommes beaucoup plus nombreux, et parce que nos moyens de destruction, effectivement, depuis le 19e siècle, 18e, 19e, se sont extrêmement étendus, ce qui explique cette accélération.
Mais en fait, toute l'ambiguïté de la politique de réintroduction, elle est aussi là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un État qui met en place une protection, voire même qui va déplacer des ours de Slovénie dans les Pyrénées pour justement participer à la protection d'une espèce, alors même que la force de destruction écologique de l'organisation sociale, en fait, n'est pas remise en question. Il n'y a pas forcément de remise en question de cet ordre des choses qui détruit tout sur son passage. C'est ça un petit peu, moi, qui m'interroge sur cette réintroduction et sur sa logique, en fait.
Alors, si, quand même, puisque je dirais, dans les représentations de la population, maintenant, la protection des espèces occupe une place beaucoup plus grande. Finalement, les politiques ont un peu de retard par rapport à ça. Il faut toujours un peu les pousser. Et il y a quand même des lois, aussi bien nationales, mais surtout européennes, qui poussent pour une restauration de cette biodiversité. Et il faut savoir également que depuis les années 90, les destructions volontaires d'ours sont extrêmement limitées. Et la population est très suivie. Donc finalement, quand des ours disparaissent, ça passe quand même pas inaperçu. Alors effectivement, il y a des morts naturelles, mais à partir de certains chiffres de disparition, on voit tout de suite s'il y a un problème ou pas. Bon, c'est pas le cas actuellement, bien qu'il y ait effectivement, on puisse avoir des inquiétudes et que quelques spécimens aient été éliminés. D'autre part, il faut savoir que les individus qui sont déplacés de Slovénie sont décomptés là-bas d'un quota de chasse, puisque en Slovénie, il y a 700 ours. L'espèce est régulée et chassée. Et donc, tous ceux qui sont pris pour être déplacés sont décomptés du quota de chasse. Donc, quelque part, c'est des individus qui sont sauvés. Et après, bon, ils feront leur vie dans les Pyrénées.
Je vous propose d'écouter un extrait d'un JT qui date de 96 et qui allait interviewer à l'époque, justement, sur cette première réintroduction des habitants d'un village sur, justement, la réintroduction de l'ours et ce qu'ils en pensaient.
Réimplanter des ours sauvages dans la forêt pyrénéenne, c'est une histoire de fou pour certains, une expérience passionnante pour d'autres, bref, une véritable affaire qui ne laisse personne indifférent, comme en témoigne la diversité des réactions recueillies par Sandrine Meurck et Pierre Isoire dans le désormais célèbre village de Mel.
Je suis contente de savoir qu'il est là. C'est une distraction de revoir un ours, presque. Il y a longtemps qu'on n'en avait pas vu.
Attraction, mais aussi répulsion. La réintroduction de l'ours divise les Mélois en trois camps. Les pour, les opposants farouches et les sceptiques.
Il aurait fallu lâcher 400 bêtes en même temps. Ils auraient fait peut-être un petit noyau et ils auraient pu rester par là. Mais une bête seule, elle va aller où, on n'en sait rien.
Il va chercher les autres, il va partir en Espagne. Donc,
un travail de technocrate, homme bravo, et que Spenson savait tout à quel monde.
Oui.
Là, non, ça, c'est... Les technocrates, là, ils n'y entendent rien.
Sans croire à sa réintroduction, Fernand, vieux chasseur émérite, l'admire et l'aime, le grand fauve. C'est l'éternelle pomme de discorde avec les bergers qui voue une haine ancestrale à l'ours.
Il nous en a fait voir, de toutes les couleurs. Alors, vous savez, quand on a connu ça, on peut pas être pour l'ours. Chaque soir, quand il était le brouillard, il fallait que je me lève. Il arrivait pour attraper des moutons. Et je l'ai chassé, je tirais un coup de fusil en l'air. Et moi, je ne dis pas que si je me trouve face à lui, je ne sais pas ce que je ferai.
Bête à abattre pour les uns, chef-d'œuvre en péril pour les autres.
Si nous avions eu la Tour Eiffel et Michel-Ange, il est évident qu'on ne se serait peut-être pas lancé dans la réintroduction de l'ours. Mais c'est notre seule, c'était la seule façon de mettre en valeur notre territoire et de nous faire valoir.
Tous, en tout cas, veulent la peau de l'ours.
Ça va nous apporter une bouffée d'oxygène importante et puis on espère avoir pas mal de clients supplémentaires. Ça va être un apport, je pense, économique très très intéressant.
Un ours label de qualité pour la montagne, censé faire revivre le village et revenir les hommes. Marthe, en tout cas, c'est sans calcul qu'elle a souhaité la bienvenue à ce vieux copain de jeunesse.
C'est joli pour la nature, ça, c'est très joli. Il vaut mieux ça un ours que des lions ou des panthères.
Dans la région...
De retour dans le magazine, et oui, il y avait un petit bug, j'ai été prise de court. Oui, dans cet extrait-là, il y a quand même deux critiques qu'on peut relever sur cette réintroduction. Il y a déjà le côté technocratique avec un État qui vient imposer un petit peu de l'extérieur, en tout cas là c'est vécu comme ça par la personne qui parle, cette réintroduction-là. Et la deuxième, c'est un peu tout l'aspect mercantile de l'ours comme, on va dire, d'un atout commercial, touristique pour une région.
Oui, c'est un document intéressant. Alors, j'ai pas tout à fait compris comme ça concernant le côté technocratique. Il me semblait que la personne disait que on va réintroduire un seul ours, donc comment un noyau va pouvoir se développer à partir d'un ours. Et voilà, que c'était fait par les technocrates qui n'y comprennent rien. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, cette réintroduction, alors c'était trois spécimens, deux femelles et un mâle, 96-97, était effectuée à titre expérimental. Déjà, pour savoir comment ça se passe, et pour enrayer l'inéluctable disparition qui était en cours. Alors, ça a été fait à Mel, et non pas dans le Béarn, où il restait des ours autochtones. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, la situation dans le Béarn était extrêmement tendue, puisqu'il y a eu des réserves Lalonde, etc. Les chasseurs s'y étaient opposés, certains élus, et c'était extrêmement difficile.
Des réserves, c'est-à-dire ?
Comment ?
Des réserves, c'est-à-dire ?
C'était les réserves Lalonde, où la chasse était interdite dans certaines zones sensibles, notamment où il y avait des femelles suitées, etc. Par contre, dans les Pyrénées centrales, l'ours avait disparu depuis peu de temps, ça faisait quelques années, hein, début des années 90, et il s'était fait extrêmement discret. Et à l'époque, certaines communes, il y avait une volonté de certaines communes de le revoir venir, et notamment pour pouvoir booster un peu l'activité économique et aussi pour le côté patrimonial. Les associations et les défenseurs de l'ours qui, depuis quelques temps, étaient travaillaient sur le dossier justement pour renforcer la population d'ours, hein, ça faisait une quinzaine d'années, même plus, une vingtaine d'années qu'on disait qu'il fallait faire quelque chose, quoi, hein. Et le renforcement de population était inévitable. Donc tout ce petit monde finalement s'est mis d'accord pour pouvoir faire cette réintroduction, et l'État a suivi. Finalement, c'est pas venu de contrairement à ce que certains affirment actuellement, c'est pas venu d'en haut, mais c'est bien venu des communes et des défenseurs de l'ours. Donc c'était beaucoup plus horizontal et de la base que d'en haut.
Alors,
Le côté, alors oui, excusez-moi.
Parce que là, vous dites patrimonial, mais c'est vrai que ça questionne, parce que ça revient aussi à cette question, la manière dont la culture capitaliste, parce que c'est pas pour moi, c'est pas les hommes en tant que tels, mais la culture capitaliste a tendance à attribuer une valeur à l'environnement ou aux espèces animales en fonction de critères économiques qui deviennent absurdes et n'ont aucun lien avec ce qui pourrait relever du bien-être des ours ou alors d'une autre idée de l'écologie, quoi.
Alors, je suis tout à fait d'accord. C'est une vision tout à fait anthropocentrée. Et l'ours et toutes les espèces ont une valeur intrinsèque pour elles-mêmes. Au niveau éthique, quand on dit « mais à quoi l'ours sert ?», c'est toujours quelque chose, moi aussi, qui me fait bondir, puisqu'en fait, ça voudrait dire que tout ce qui ne nous sert pas personnellement, moi d'abord, aurait vocation à être éliminé, ce qui éthiquement est inacceptable. Mais il faut savoir que bon, pour des populations qui vivent sur place, et bon, effectivement, qui n'ont pas forcément énormément de travail, etc., et qui veulent rester vivre au pays, ça peut être ce genre de développement peut être une occasion pour elles de rester sur place. À partir de ce qui compose le pays, on va dire. On peut citer quelques exemples dans le nord-ouest de l'Espagne, les Asturies, en Italie, les Abruzes, où finalement cette faune sauvage qui n'a pas été autant éradiquée qu'en France, il restait beaucoup plus de populations, mais les populations locales se sont dit, mais finalement, il y a des gens qui sont intéressés, qui veulent venir voir, et pour nous, ça peut être une occasion de vivre au pays et de développer des activités. C'est comme ça, je pense, qu'il faut le voir. Alors effectivement, il ne faut pas qu'il y ait des dérives, il ne faut pas que ça devienne du voyeurisme, il ne faut pas qu'il y ait des dérangements pour les espèces, mais on peut arriver à trouver des moyens pour que ça se fasse de façon respectueuse et que tout le monde, finalement, puisse en profiter et se trouve dans une position gagnant-gagnant, finalement.
Alors, oui, c'est compliqué d'aller interviewer les ours pour savoir comment eux le vivent, mais en fait, est-ce que vous avez des informations ou des moyens de savoir comment vivent ces ours en ce moment, et notamment les ours qui ont changé d'environnement ?
Oh ben, ils se sont très très bien adaptés à l'environnement des Pyrénées qui est excellent pour les ours. Hein. Il faut savoir que la survie des oursons en général est estimée à environ 50% et dans les Pyrénées elle dépasse les 70%. Donc, ce qui prouve que le milieu est déjà à la base riche. Il faut savoir dans les Asturies il y a actuellement 350 ours. Et que là-bas, la part de la forêt et finalement l'emprise de l'homme est un peu plus grande même que dans les Pyrénées. Et les ours se sont vraiment très très bien adaptés.
Se n'es mal autodidacta. gozo, senes malauto di gozo, te farai importare.
Midi 40 sur Canal Sud 92.2 en compagnie de Patrick Lérissou de l'association Férus de protection des grands prédateurs et notamment du l'ours dont on parle aujourd'hui. Vous êtes notamment en lien, votre association ainsi que votre réseau d'associations de défense et de protection de l'ours avait un rôle, notamment vous donnez un rôle de sensibilisation auprès des gens qui vivent dans le même espace de vie que les ours. C'est quoi les questions justement, les oppositions que vous rencontrez et les arguments que vous développez en faveur justement de la cohabitation avec l'ours et d'une acceptation de la présence de l'ours, on dira?
Alors, on a plusieurs programmes de sensibilisation. On a un qui s'appelle Parole d'ours, où des équipes de bénévoles parcourent les Pyrénées pendant tout l'été pour distribuer de la documentation, pour informer les gens et aussi poser des questions. C'est-à-dire on a un questionnaire chaque année, notamment sur l'acceptation, sur les craintes, les peurs, et sur l'information qu'ont les gens sur la compatibilité et avec le pastoralisme et les aides qui sont données à cette occasion. Et puis des questions plus d'actualité. Le but, c'est de pouvoir cibler quelles sont les réticences, les comprendre en laissant les gens parler et ensuite expliquer, notamment si ces réticences ne sont pas justifiées, pour échanger, donner de l'information. On a aussi un autre programme qui s'appelle Happy Ours et qui consiste à planter des arbres fruitiers aux abords des villages et dans des terrains, on va dire, plus sauvages, des terrains qui sont soit à des particuliers ou des terrains communaux, pour sensibiliser à la biodiversité, la pollinisation, les abeilles, et pour montrer que tout ça se tient. Tout fonctionne ensemble et tout est interdépendant, l'homme, les abeilles, les arbres et les ours. Voilà.
Est-ce que c'est vrai que les ours vont dans les ruches?
Pardon, Oui, tout à fait. Alors, effectivement, ils aiment le miel, mais on pense toujours au miel à cause de Winnie l'ourson. Mais ce qui les intéresse aussi, surtout, ce sont les larves. Puisque en forêt, même, ça leur arrive, avec les fourmis, par exemple, d'éclater des fourmilières pour aller manger les larves. Et donc, les larves les intéressent. Effectivement, c'est très riche en protéines. Et il faut savoir que effectivement ils peuvent dévaster littéralement des ruchers, mais
c'est pas les rois
des clôtures électriques peuvent être mises et qui sont très efficaces.
Hein. Ils sont un peu problématiques, ils menacent un petit peu la biodiversité au final aussi. Je plaisante.
Oui, tout à fait. Mais en fait, c'est ce qui se passe dans la nature. Hein. Il y a des prédateurs, il y a effectivement, et tout était une question d'équilibre finalement. Hein. Tout fonctionne à partir du moment où il y a un équilibre, que l'homme a largement déséquilibré finalement, a largement perturbé.
Après, je pense que les défenseurs de la chasse. C'est un peu toujours pareil, c'est l'argument qui est, on va dire, brandi, c'est de dire qu'il y a des prédateurs et que l'homme en est un et que du coup l'homme aurait le droit d'être un prédateur au même titre que les autres espèces. Sauf qu'en fait, là, on voit bien qu'il y a quand même une autre dimension, en fait, c'est ça.
On est 7 milliards. Donc, effectivement, ça ne s'est jamais vu qu'une espèce de 70 kilos et puis d'1,70 m ait de tels effectifs sur Terre. Donc, effectivement, forcément, il y a des perturbations.
Et c'est aussi nocif, quoi. C'est mon avis. Alors, du coup, dans les mails que vous nous avez envoyés, enfin que nous on a reçus notamment pour aussi en préparation de cette émission, votre association se donne pour objectif aussi de visibiliser les violences que subissent les ours. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Parce qu'en fait, en gros, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu plusieurs morts d'ours. Notamment l'année en 2020. Est-ce que vous pouvez nous en parler et nous raconter un petit peu quel est le contexte, en fait? Est-ce que là, on peut parler d'un contexte vraiment tendu en Ariège sur les ours en ce moment? On va dire, est-ce que les chasseurs sont particulièrement offensifs et pourquoi?
Alors, il faut savoir qu'actuellement, vis-à-vis de l'ours, le problème vient plus de l'élevage que des chasseurs. Hein. La chasse n'offre pas un front uni contre l'ours, bien au contraire. Hein. Il y a des fédérations de chasse qui jouent vraiment le jeu et qui prennent vraiment les bonnes précautions, hein, comme celle de la Haute-Garonne, des Pyrénées-Atlantiques, et d'autres comme celle de l'Ariège, effectivement, où le président fait partie des anti-ours radicaux, malheureusement. Le monde de l'élevage est un petit peu plus uni contre l'ours. Des gens acceptent sa présence, des éleveurs acceptent sa présence, mais on ne les entend pas trop parce qu'ils subissent des pressions, malheureusement. Il faut savoir qu'en Ariège, de toute façon, la population est, comme dans le reste des Pyrénées, favorable à 70% au plantigrade. Aussi bien les sondages officiels que nous, les enquêtes qu'on mène chaque année, montrent que c'est finalement, depuis des années, c'est un pourcentage qui est constant. Et c'est une très faible proportion d'opposants radicaux qui installent un climat, on va dire, de pression et de violence. Autour notamment de quelques associations radicales anti-ours. Mais plus liées à l'élevage qu'à la chasse.
Et parmi les ours...
Alors les ours, effectivement, qui ont pâti, qui ont récemment été, qui sont morts de la main de l'homme, l'année dernière, un ours a été empoisonné dans le Val d'Aran, côté espagnol, par des opposants. Il y a eu une enquête, des opposants ont été inculpés suite à cet empoisonnement. Parmi eux, une des personnes était chargée du suivi de l'ours dans les équipes officielles du Val d'Aran.
Il y a des infiltrés dans la protection de l'ours.
Mais tout à fait.
Wow.
Et je dirais malheureusement, un ancien gouverneur du Val d'Aran a aussi été inculpé et qui était chargé du programme Life Ours de réintroduction de l'ours goyat. Voilà.
Waouh, je ne m'y attendais pas du tout.
Ah, mais tout à fait. Ce qui prouve que...
Quels sont les enjeux pour ces personnes? C'est-à-dire voilà. Que...
Je pense que... Alors, j'avais entendu dire que justement le gouverneur est éleveur de chevaux, mais ça, je ne suis pas sûr de la justesse de l'info. Je n'ai pas eu confirmation, malheureusement. Et puis, il y en a certaines... Je ne sais pas, chacun ses motivations, on va dire.
Ils s'infiltrent pour accéder à des informations sur l'ours le tuer ?
Non, pas forcément, puisque le gouverneur, effectivement, il faisait partie du sérail politique, mais c'était un opposant, comme on peut en voir en Ariège, dans la classe politique. Et par contre, la personne qui faisait partie de l'équipe de suivi, je ne sais pas, peut-être qu'elle est rentrée là-dedans pour avoir un boulot et finalement faisait partie des... ça prouve tout au moins que la justice catalane fonctionne bien mieux que la justice française, où les accusations des anti-ours sont quasi systématiquement bénéficient d'une impunité de fait, puisque les enquêtes n'aboutissent jamais. Alors, est-ce qu'il y a les moyens qui sont mis en œuvre suffisants? Je ne sais pas. Alors, pour poursuivre les ours tués l'année dernière, un autre a été tué par balle, cette fois-ci en France, sur une estive à Uftou. Donc on ne sait pas qui est l'auteur de cette... c'était au mois de juin. On ne sait pas quel est l'auteur de cet abattage. Certains parlent des chasseurs, mais ça vient plus probablement de l'élevage. Ensuite, une ours en Aragon, côté espagnol, a été victime d'une battue au sanglier, puisque en général, ce genre d'action faite sans précaution stresse énormément les animaux qui prennent la fuite. Et puis, s'ils trouvent effectivement un chasseur sur leur chemin, vont faire une charge. Une charge qui peut n'être qu'une charge d'intimidation, mais de toute façon, il y a une réaction de défense du chasseur qui va battre l'animal, malheureusement. Ce qui s'est produit cette année, au mois de novembre, en France aussi. Et qui ne s'était pas produit depuis l'affaire Canel, en 2004, qui était la dernière femelle autochtone qui avait été abattue dans les mêmes circonstances, mais dans le Béarn.
Alors, on va écouter une chanson, justement, qui parle de Canel. Est-ce que vous voulez l'introduire, nous parler un petit peu de cette chanson ou de Canel ?
Oui, alors Canel, c'était la dernière femelle de la population autochtone des Pyrénées qui a été abattue lors d'une une battue au sanglier en 2004, alors que les chasseurs savaient avaient été informés qu'il y avait cet ours dans le secteur et n'ont pas pris les précautions qu'il aurait fallu prendre. Et son fils, l'ourson Canelito, est toujours vivant en fait. Hein. C'est un métis ours slovène ou ours autochtone pyrénéen, mais qui ne s'est pas reproduit à l'heure actuelle.
C'était la dernière femelle d'ours pyrénéen. Elle s'appelait Canel. L'animal a été tué par un chasseur lors d'une battue au sanglier, maintenue malgré la présence annoncée du plantigrade dans le secteur. Son ourson Canelito est livré à lui-même en vallée d'Aspe. Il est désormais orphelin.
Elle était reine de nos montagnes, humble matrone. Au fil des âges, son pelage était sa couronne. Elle était gardienne des ruisseaux, attirée par le reflet de la lune sur l'eau. Elle était l'héritage d'un monde si ancien que les loups face à elle aboyaient comme des chiens, contemplant les sommets et les neiges éternelles. C'était le royaume de Canel, dernière ours femelle d'une grande lignée, digne représentante de nos belles Pyrénées. sur ces 12 contrées où les vaches font paître. L'être humain a chassé ses ancêtres. Des siècles d'écocides, de battus, sous le regard inquiet des chipaètes barbus. Était-ce la suite logique ou le destin peut-être? Bientôt Canel allait disparaître. Elle était reine de nos montagnes. Mais le monde n'avait plus besoin d'elle. Entre la France et l'Espagne était le royaume de Canel. Elle a vu pousser les villages, s'échapper les lourdes fumées blanches des éco-buages. Elle a vu la Bigorre devenir ce qu'elle est, les câbles et des pylônes traverser la vallée. Apeurée par le chant des clarines, partout des pâturages, des enclos, des prairies. Seule face au danger de perdre sa couronne, de plus en plus de bergers pour nourrir les hommes. Puis d'immenses barrages se dressèrent autour d'elle, créant des paysages de lacs artificiels. Des routes par centaines, des baraques à touristes, des trous dans la falaise pour faire des raccourcis. Elle a contemplé le désastre, déplorant le silence des oiseaux dans les arbres. À l'ombre des reliefs, des pasteurs en errance, Canel, combien d'espèces disparaissent en silence. À l'ombre des reliefs, des pasteurs en errance, Canel. Combien d'espèces disparaissent en silence. Elle était reine de nos montagnes. Mais le monde n'avait plus besoin d'elle. Entre la France et l'Espagne. Restez que vous, au revoir notre reine. La folie est humaine, un point de non-retour. Ils ont réintroduit quelques ours slovènes. Votre espèce est finie, éteinte pour toujours. Quand sous les yeux de votre ourson, victime d'un chasseur et des valeurs qu'il incarne, vous fûtes tué, sans raison, le 1er novembre 2004, en Béarn.
Tu t'aimes, Seyou.
C'était Calune avec Canel qui raconte justement de cette ours qui a été tuée en 2004, qui raconte toute son histoire. On vous avait beaucoup parlé justement des groupes d'agriculteurs qui étaient opposés à l'ours. Est-ce que, selon vous, leurs actions sont fondées, puisque j'ai du mal à comprendre, parce qu'en parcourant un petit peu les rapports qui sont établis par notamment l'association Férus, mais aussi d'autres, on a tendance à penser qu'en fait l'ours ne représente pas un réel danger pour les moutons. Alors après, bon, c'est toute la question de ce qu'on pense de l'élevage et tout ça, mais en tout cas... Vous diriez qu'il n'y a pas beaucoup d'attaques d'ours envers les élevages, mais en même temps, j'imagine qu'ils ne se lèvent pas pour rien non plus.
Oui, alors il faut savoir qu'en France, le nombre de bêtes tuées par ours par an est 10 fois plus élevé que dans les autres pays d'Europe.
Comment ça se fait?
Alors, les explications les plus probables, c'est avant tout des moyens de protection qui ne sont pas en place dans leur totalité, soit absent, soit lacunaire. Donc, et d'autre part, des méthodes d'indemnisation. Alors, il faut savoir que les constats de dommages qui sont faits par des agents de l'OFB. Ensuite, l'OFB a fourni aux préfectures des grilles de lecture pour pouvoir attribuer les dommages soit à l'ours, soit à une autre cause, si ce n'est pas une prédation. Il faut savoir que c'est le pouvoir politique qui... C'est notamment les préfectures qui vont donner le résultat de ces constats. On peut suspecter que ces attributions à l'ours sont souvent faites de façon complaisante vis-à-vis de l'élevage, pour acheter la paix sociale. Ce qui explique aussi des taux de prédation très élevés, apparents. Enfin, tout ceci montre qu'il y a quand même des pistes de progrès, puisque il faut savoir que ça concerne d'ailleurs pas que l'ours, c'est aussi le loup et le lynx. La France est très mal placée par rapport aux autres pays européens en termes de taux de prédation. Donc il y a quand même des choses à faire. Il faut savoir que les moyens de protection progressent quand même dans les Pyrénées, même s'ils progressent lentement. Et notamment cette année, on a eu quand même une baisse par rapport aux années précédentes.
Merci beaucoup. L'émission touche à sa fin. Est-ce que vous pourriez peut-être rappeler les informations pour que les personnes qui ont été intéressées par cette émission puissent vous suivre, avoir accès à de la documentation sur l'ours, voilà, sur les réseaux ou autres? On vous écoute.
Nous avons un site internet, hein, donc il suffit de taper Férus et vous tomberez dessus.
Ouais, F-E-R-U-S.
Voilà, F-E-R-U-S. Nous avons aussi un compte Facebook, donc en cherchant, vous pourrez trouver, et vous aurez plein d'informations. Si vous adhérez, on édite aussi un trimestriel à l'attention des adhérents, à la Gazette des Grands Prédateurs, où on parle finalement des trois espèces de grands prédateurs en France, ours, loup, lynx, et éventuellement d'autres espèces dans d'autres pays. Oui. Voilà.
Donc, par grand prédateur, bien sûr, il n'y aura pas d'informations sur la classe politique et dirigeante française. On n'est pas sur.
Oui, tout à fait. On ne parle pas des bipèdes, là, on ne parle que des quadrupèdes.
Okay. Ben, merci beaucoup et à bientôt. Et nous, on se retrouve juste après. Ben, voilà. Merci. Au revoir.
Au revoir.
Et nous, on se retrouve juste après, dans 5 minutes, en compagnie de camarades kurdes.